Livre notre nouvelle recette.
Alexandre Hérault.
Tout d'abord, il y a notre invité.
Vous l'adulerez, vous ne connaîtrez que lui.
Aurélie Sfez.
Parfois, il ne sera pas connu, il faudra le reconnaître.
Bonjour.
Bonjour.
Une première heure exclusivement musicale, Aurélie Sfez, car à nos côtés sera présent un autre groupe à découvrir.
Et dans la seconde heure, Alexandre, la petite bande recevra qui ?
Un autre invité, faisant la scène culturelle du moment, et vos nuits s'ouvriront ainsi, car...
De toute façon, pour y voir clair, il faut rester ouvert la nuit.
Ouvert la nuit. Tous les soirs, à partir de 21h. Là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur, c'est maintenant.
Oui, la traduction de l'orgasme, c'est pas ça, Daniel. C'est tout simplement le titre de ton émission. Là-bas, si j'y suis. Et en plus, c'est tous les jours de la semaine à 15h. C'est pas bon, ça. Allez, du plaisir pour tous les AMG. À bientôt.
Ah, une émission qui a bien dû perturber les biotes aujourd'hui. Ça fait du bien. Merci, Daniel.
Oui, j'étais contente de retrouver votre émission quand j'ai entendu le sujet, l'orgasme. Ras-le-bol. Ma parole, vous êtes obsédé. Vous croyez vraiment que nous ne sommes pas capables de vous informer sur ce sujet sans votre aide ? En plus, vous voulez sans doute en faire profiter les enfants puisque vous traitez le sujet un mercredi. Personnellement, j'attendais autre chose de vous. Il va falloir penser à la retraite, Daniel, et laisser à d'autres la place pour traiter de sujets plus sérieux. Quant à moi, j'y regarderai à deux fois avant de conseiller à quiconque votre émission. Dommage, vous excellez tellement sur d'autres thèmes. Salut!
Salut, je viens d'écouter l'émission sur l'orgasme. C'était fort sympathique d'ailleurs, mais une question tout de même. Pourquoi quand on parle d'orgasme avec un point d'interrogation, c'est toujours au féminin ? Et là même au masculin, ça serait intéressant, non ? Allez, salut, merci pour vos émissions. Ciao, c'était Roxane.
Oh oui, Daniel. Oh, oh Daniel. Oh oui. Oh, ta deuxième émission était tellement moche. Oh, j'attends la troisième avec impatience. Oh oui, Daniel. Oh, encore. Puis 2012-2013.
Jésus, Marie-Joseph. Vous avez entendu le vice-président potentiel choisi par Mitt Romney ? Je suis catholique, j'aime mon pays, ma famille et mon fusil. Oh my God. Et un de ses partisans d'expliquer qu'un avortement en cas de viol, ça serait punir l'enfant pour la faute du père. Bah, en même temps, vu qu'une femme violée ne peut pas être enceinte, dixit les mêmes, eh bien Dieu bénisse l'Amérique. C'était Christine du Limousin.
Le traité budgétaire européen a pour vocation d'inscrire la règle d'or dans l'élaboration des budgets nationaux sous le contrôle de la Commission européenne. L'humanité rappelle une phrase du président Mitterrand. Entre l'Europe et une politique sociale, je choisis l'Europe. Merci à tous.
Bonjour à tous. Hier, j'ai écouté l'émission consacrée à Harmonie. Et ça m'a pas mal ému parce qu'il se trouve que ma mère porte le même prénom, Harmonia. Et que son père, donc mon grand-père, était anarcho-syndicaliste, se chantait par Léo Ferré. Plus précisément, CNT FAI, pour ceux qui ne seraient pas au courant. En français, ça donne Confédération Nationale du Travail et Fédération Anarchiste Ibérique. Ma mère doit avoir quelques 18 ans de plus qu'Harmonie d'hier, d'où un sort un peu différent. Donc un soir de février, mon grand-père est prévenu qu'il est activement recherché par les nationalistes franquistes. Il réquisitionne un cheval et une charrette, et vers minuit, l'attelage emporte ma mère, sa sœur, son frère, sa femme et sa mère d'adoption. Lui, il reste sur place pour retourner au front. Et quand j'ai dit ma mère, il s'agit alors d'une fillette de 11 ans. Dans la nuit, elle passe devant son école et comprend que c'est fini pour elle, l'école. C'est un hiver givron. Les bourrins se sont cassés les pattes sur ces routes et il a fallu les buter. Et puis il a fallu marcher de nuit et dormir deux jours dans les bois à cause des attaques en piqué de l'aviation italienne et allemande qui se faisaient les crocs.
Guerre d'Espagne encore, nous y revoilà après le témoignage d'Harmonie, avant-hier, Harmonie, qui devait son prénom, souvenez-vous, à son père républicain espagnol. Réaction de cet auditeur, et nous revoilà encore dans les fantômes de cette guerre d'Espagne. Des fantômes parfois bien vivants, si on va à Paris, dans le 20e arrondissement, au 33 rue des Vignoles. Une impasse, une ruelle, où l'on trouve le siège de la CNT. Ah, la CNT, CNT, on disait. Autrefois, en Espagne, la Confédération nationale du travail, un syndicat extrêmement puissant, durant cette guerre d'Espagne, qui a joué un rôle important et surtout qui a vraiment fait la révolution dans la guerre. Il y a eu la guerre d'Espagne, à l'intérieur de cette guerre d'Espagne, vous le savez peut-être, et si vous ne le savez pas, ben on va contribuer à vous l'apprendre, et à évoquer ce moment capital de l'histoire, non seulement espagnole. Aujourd'hui, en Espagne, c'est une mémoire en grande partie refoulée, mais c'est aussi cette guerre d'Espagne et cet épisode de la CNT, de l'appropriation des terres par les paysans, d'un certain nombre de contrôles ouvriers sur les entreprises. C'est une référence pour, ça a été et ça demeure une référence pour les mouvements sociaux et politiques dans le monde, notamment en Amérique latine. Et ça fait écho aussi à d'autres mouvements qui relèvent, comme le disait cet auditeur, de l'anarcho-syndicalisme, qui a ses racines notamment chez nous, en France, mais aussi aux États-Unis, par exemple, avec le mouvement IWW. On en a parlé dans cette émission lorsque nous avons évoqué les grandes grèves de Lawrence en 1912, et puis la CNT espagnole avec ces moments tragiques, terribles à Barcelone, de la guerre dans la guerre entre ces anarcho-syndicalistes qui voulaient faire la révolution et le parti communiste à l'intérieur de la structure républicaine qui s'y est opposée avec cette guerre civile dans la guerre civile. C'est l'objet probablement d'un des plus grands livres du XXe siècle, Le Mage à la Catalogne. Cette guerre d'Espagne, souvent, est réduite à des scènes romanesques. Il faut dire qu'il y avait de quoi fournir beaucoup de choses de ce genre, ou bien à quelques évocations des brigades internationales, de façon extrêmement inappropriée par certains pompeux cornichons. Il n'y a pas que ça dans cette guerre d'Espagne et dans ses suites. Il y a énormément de conflits, de questions qui sont toujours posées aujourd'hui à ceux qui n'entendent pas laisser l'ordre du monde dans cet ordre-là. Aujourd'hui, on va au 33 rue des Vignoles. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on retrouve la CNT et ce local où ils sont depuis fort longtemps, très actifs, est menacé parce que y a un conflit entre la CNT et la ville de Paris qui demande la restauration du lieu avant de donner l'autorisation, mais évidemment la CNT n'a pas un sou pour ces restaurations. Et je crois que il faut défendre un endroit comme celui-là parce que, voilà, c'est une mémoire, c'est un patrimoine et c'est quelque chose d'actif aujourd'hui si, encore une fois, on ne veut pas se contenter de l'ordre des choses, surtout dans une ville comme Paris qui se vide totalement de son peuple, de sa population ouvrière, populaire, alors que là, on ne parle que de peuple et que d'ouvriers. C'est notre sujet du jour, c'est un reportage d'Antoine Chao. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, ici la Martinique. Le repère du Carbet se porte bien, il y a de plus en plus d'AMG qui viennent débattre et échanger. Et comme d'habitude, on va se retrouver au restaurant La Lanterne, à Lens-la-Touffe, dans le Nord-Caraïbe. Le thème choisi pour cette discussion est Pierre Bourdieu, mort il y a 10 ans. On va débattre autour de son œuvre et de son héritage. Rendez-vous donc lundi 3 septembre à 18h30 à La Lanterne. Vous pouvez vous inscrire auprès de Didier au 05 96 766 036. Salut et bonne émission.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Très heureux de vous réentendre. Daniel, comme je t'ai entendu dire que tu n'avais pas trop de nouvelles des repères, eh ben je t'envoie des nouvelles des repères du Sud-Est. Donc le jeudi 5 septembre, au repère d'Aix-en-Provence, on se retrouvera pour faire le bilan des rencontres d'économiques qui ont très très bien marché. Et puis on posera le programme pour l'année qui vient. On a déjà quelques beaux rendez-vous. Le jeudi 12 septembre, donc le repère de Marseille recevra Bernard Genet de Comaguerre et on parlera de la Syrie. Et puis donc un nouveau repère, ce sera le jeudi 20 septembre, ce sera le repère de Salon, et donc qui parlera de la dette avec une intervention de Fabrice Aubert qui est un économiste régional. Mais on rappellera à chaque fois pour donner tous les détails de ces différents repères.
Bonjour à tous les AMG, c'est Bernard d'Hénin-Beaumont. Alors le prochain café repère d'Hénin-Beaumont donc, se déroulera le 6 septembre à la Belle Anglaise, Palsouagon, à Hénin-Beaumont, à partir de 19h30. Et j'aurai le plaisir d'accueillir les membres de l'association Bassin Minier Uni, qui, grâce vraiment à une volonté qui n'a jamais faibli depuis 2003, un travail acharné et vraiment la foi dans leur mission, eh ben, ils ont réussi, en juillet 2012, à faire inscrire notre bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ils viendront nous raconter leur histoire avec l'enthousiasme qu'on leur connaît. Alors au 6 septembre et viva la vida!
Alors 33 rue des Vignoles, en ce lieu, les exilés espagnols de la Confédération Nationale del Trabajo, anciens de Mauthausen, des maquis, de la Libération de Paris, et combattants de la liberté et de la justice sociale, ne cessèrent jamais d'œuvrer pour un autre futur. Plaque inaugurée le 7 février 2009 par l'Union des syndicats CNT de la région parisienne à l'occasion du 70e anniversaire du début de leur exil. 33 rue des Vignoles.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao. Là-bas, si j'y suis, 33 rue des Vignoles, Paris, 20e arrondissement.
Flight number 2, arriving from New York.
Ce soir, nous sommes au début de trois jours de fête régionale, une fête qui s'inscrit dans un combat qui est celui de la défense du 33 rue des Vignoles. Une impasse qui est remise en état par notamment les camarades de l'exil de la CNT espagnole, hein, 1970, et progressivement ce lieu devient un espace autogéré au service des luttes sociales, au service aussi d'une contre-culture, et en même temps un lieu ouvert sur le quartier. On est en négociation, parce qu'il y a une menace d'expulsion de la mairie de Paris, mais en même temps il y a une nécessité de rénovation des locaux. Les trois jours de mobilisation et de fête régionale ont comme objectif de faire connaître ce combat pour la défense du 33 comme lieu de résistance, comme lieu de lutte sociale et de contre-culture. Voilà.
Dans quelques jours, comme chaque année, ça va être les journées du patrimoine. Et les Françaises et les Français ravis vont aller à la découverte de leur patrimoine, à eux, de Françaises et de Français, dont ils sont bien fiers et ils ont bien raison. Est-ce qu'on fêtera ce jour-là? Est-ce qu'on commémorera Fernand Pelloutier? Ça vous dit quelque chose, Fernand Pelloutier? Fernand Pelloutier, c'est le gars qui a inventé la bourse du travail. Est-ce que la Bourse du Travail fait partie du patrimoine et de ces journées? C'est possible, mais connaît-on Fernand Pelloutier et Émile Pouget? Émile Pouget, celui qui est le créateur du Père Pénard, un canard anard du tournant du siècle, celui d'avant. Ces gens-là sont très importants. Ils œuvraient et ils réfléchissaient, ils pensaient, ils reflétaient des courants d'aspiration émancipatrice dans notre pays. Ils n'étaient pas les seuls. Un peu partout dans le monde, dans les pays industrialisés, les luttes sociales avaient trouvé ça comme voie, comme expression et comme recours et comme projet alternatif. L'anarcho-syndicalisme a eu une longue histoire, souvent brutale, souvent sanglante. Je parlais tout à l'heure du Wobblies des États-Unis. On pourrait évoquer aussi ces mouvements chez nous, comment ils furent peu à peu politisés, organisés, certains diront domestiqués, compromis. Enfin, c'est une longue et formidable histoire dont nous sommes bel et bien les héritiers et dont beaucoup de nous profitent souvent sans le savoir. Et ce qui est bien dommage qu'on ignore, le nom de quelqu'un comme Fernand Pelloutier et le créateur de la Bourse du Travail. Aujourd'hui, je vous dis ça parce que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, on n'irait pas 33 rue des Vignoles considérer cet endroit comme appartenant au patrimoine des luttes sociales dans ce pays, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Là, se sont retrouvés, à une époque, on vient de l'évoquer, eh bien, les réfugiés espagnols. Ils ont fait de cet endroit ceux qui avaient lutté là-bas, ceux qui avaient lutté dans les rangs de la CNT. Et quand je dis rang, je le dis à dessein. Parce que quand on dit anarchie, on pense au désordre, à l'individualisme, à des moyens de s'en sortir ironiquement. L'anarcho-syndicalisme, c'est tout à fait autre chose, et ce fut tout à fait autre chose en Espagne. C'était quelque chose de très organisé, d'extrêmement puissant, et qui a été une force considérable dans ce pays. C'est ce qu'on va évoquer aujourd'hui avec des survivants, avec des témoins de cette guerre d'Espagne, de cet épisode, comme une raison que ce lieu, ce 33 rue des Vignoles, siège de la CNT, continue. Et évidemment, ça ne se limite pas à cette mémoire. Aujourd'hui, ce mouvement est ouvert sur les luttes contemporaines, sur le syndicalisme d'aujourd'hui, et aussi sur ce quartier, ce qui peut rester de populaire dans ce quartier du 20e arrondissement, 33 rue des Vignoles, c'est jusqu'à 16h. C'est la basse issue.
Hijos del pueblo te oprimen cadenas y esta injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que esclavo prefiere morir en la batalla la hiena fascista con nuestro esfuerzo sucumbirá. Y el pueblo entero de los anarquistas hará que triunfe la libertad. Trabajador, no más sufrir, el opresor ha de sucumbir. Levántate, pueblo leal, al grito de revolución social. La 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 no ni no na ni no no na ni ni na la na 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 ni na na torpe burgués atrás.
Alors Merlin, pourquoi on vient ici?
Je sais pas.
Eh ben justement, c'est pour que tu saches qu'on vient ici. Parce qu'ici, il y avait la Confédération nationale du travail qui est venu ici pour lutter contre Franco, Merlin. Comme ton arrière-grand-père, ils se sont battus contre le franquisme. Et ici, au 33 rue des Vignoles, il y a toujours le local de la CNT. C'est là.
Se puede?
Manuel Valentin.
Alors, ici, on est dans un des bureaux de la CNT. On est où ici ?
Dites-moi. Là, c'est la CNT espagnole. Alors, ce qui reste de la CNT espagnole, hein, les quelques vieux pépères, puisque je suis un des plus jeunes et j'ai 76 ans.
Moi, j'en ai 83 bientôt.
Et vous êtes donc les fondateurs un peu de ce local, ici ?
Ah, oui, la création, oui, la création.
Oui. Les survivants de ceux qui ont travaillé dur.
Eh ben voilà, c'est ça qui nous intéresse ce jour-là, c'est ça qui intéresse Antoine Chao, et il essaye d'y intéresser son fiston, parce que c'est une histoire, vous avez compris, c'est une histoire de famille, un petit peu, pour Antoine, et puis c'est une histoire qui nous intéresse, et qui, je crois, doit vous intéresser, tant cette guerre d'Espagne, et ses suites toujours aujourd'hui, vous vous souvenez, l'histoire des enfants volés, dont on a parlé dans des reportages récent avec les indignés à Madrid. Et bien tout ça se suit. Nous pensions que cette Espagne était totalement endormie, à jamais dépolitisée. Et vous avez vu comme les choses se sont réveillées. Vous avez vu le mouvement des mineurs espagnols qui se réfèrent à leur histoire. Et puisque nous sommes Européens, eh bien, ça nous concerne. Et dans cet endroit, eh bien, on entretient effectivement cette mémoire qui en a bien besoin d'être entretenue et connue. Et puis, on fait un syndicalisme actuel. Évidemment, la CNT, c'est une des mémoires de cette guerre d'Espagne. Il y a toujours des polémiques très importantes et très fondamentales sur ce qui s'est passé à cette époque de l'autre côté des Pyrénées. Nous sommes avec cela.
Alors, Manuel Rodriguez, né un certain 19 juillet 1936 en Espagne. C'est une date historique, hein. Mon père en train de courir les rues avec un fusil et ma mère en train d'accoucher.
C'est quoi pour vous cette date du 19 juillet ?
Le coup d'état franquiste a eu lieu le 18. Le peuple s'est révolté le 19. Il y en a beaucoup qui parlent beaucoup de guerre civile. Nous, on parle plutôt de révolution. Comme je l'entends moi, comme l'a entendu mon père, etc. etc. Pour nous, c'est une révolution. C'est pas...
Il n'y avait pas que sauver la République ?
Ah non, non, non. Il y avait une révolution à faire. Une révolution dans tous les genres. C'est pour ça que nous, on tient beaucoup à ce que, lorsqu'on parle des événements qui ont eu lieu en Espagne en 1936, on parle de la Révolution espagnole. Ça allait au-delà de la guerre civile. Beaucoup au-delà. Chose qui faisait peur à beaucoup de nations, à beaucoup d'États. Hein, parce que si ce qu'on était arrivé à implanter en Espagne, les collectivités, l'abrogation de l'argent, etc., etc., ça aurait donné de mauvaises idées à d'autres, d'où par la suite la non-intervention, etc., etc.
Je sais très bien, dans cette affreuse aventure,
Léon Blum,
de quel côté doit nous incliner et quel souhait doit nous imposer l'intérêt national, l'intérêt de notre pays en dehors de toute espèce d'affinité ou de passion politique.
Discours de Luna Park, 1936.
Je suis obligé ici de mesurer mes mots. Et vous le comprendrez, je sais que le maintien du gouvernement légal de la République espagnole garantirait à la France, en cas de complications européennes, la sûreté de sa frontière pyrénéenne, la sûreté de ses communications avec l'Afrique du Nord, et sans que je me permette aucune prévision sur un avenir que nul ne connaît exactement. Et si quelque chose aujourd'hui doit être aux yeux de tous un affreux scandale, c'est que cet intérêt évident de la France ait été à tel point méconnu par une presse partiale jusqu'au crime et jusqu'à la trahison.
Alors, parlez-nous de votre père un peu.
Un révolutionnaire dans l'âme, parce que bon, il a beaucoup souffert de toutes les vicissitudes que pouvait souffrir un homme qui n'avait que ses bras comme richesse. Il n'avait rien, il n'avait que ses bras, il louait ses bras au cacique du coin. D'où son esprit révolutionnaire, il voulait abolir cette, cette disproportion qu'il y avait entre le potentat et puis l'ouvrier qui louait ses bras. Il a fait la guerre dans la DCA. Il a participé, quoi, à sa manière, à la Révolution. Vous voyez, je reviens toujours à la Révolution. Hein. Qu'il a trouvé la CNT, qui s'est fait expliquer ce que c'était la CNT, ses buts, ses finalités. Il a adhéré à la CNT et jusqu'à sa mort, il a été membre actif de la CNT. Il s'est donné à la poésie, tout autodidacte qu'il était. Le peu qu'il a écrit et qu'il a su lire et écrire, c'est un berger qui lui a appris. Parce qu'il allait garder les cochons là-bas, à l'Estrémadour, là où on faisait du bon jambon. On fait toujours du bon jambon. Qui lui avait appris à lire et à écrire. Et à compter.
Un berger anarchiste, certainement.
Ah, ben oui. Ah, c'était très puissant, la CNT en Espagne. C'était très, très puissant. C'était un syndicat qui était très structuré. Qui avait des adhérents qui venaient par conviction. C'est pas parce que, tiens, je vais me syndiquer pour faire un nombre, non. Et ils avaient des idées très, très, très avancées qui faisaient que ils venaient pour se battre, pour faire quelque chose de positif. En ce qui me concerne, je suis parti de chez moi, j'avais 3 mois. Je suis parti d'Espagne, j'avais 3 ans. Et je n'y suis retourné qu'après la mort de Franco, bien plus tard, en 95.
À Grenade, dans sa Grenade, fut arrêté, jugé, condamné à mort, exécuté le lendemain, le poète Federico Garcia Lorca.
On a tué celui qui disait « Vert, c'est toi que j'aime, vert du vent et vert des branches. » Le cheval sur la montagne et la barque sur la mer. Il aimait les jardins secrets de Grenade, il aimait le vent, les oliviers. Il avait dit, je suis et je serai toujours du côté de ceux qui ont faim. Il avait dit, si je meurs, laissez la fenêtre ouverte. Il avait dit, non, ce sang, je ne veux pas le voir.
Valentin Montaner, et je suis né dans la Ribera d'Ebro, dans un petit village tout près de l'Ebre, province de Tarragone, la limite de la Catalogne au sud. Et je me souviens de mes jeunes années là-bas. J'avais 7 ans quand le mouvement s'est déclenché. Mon père et ma mère avaient des petits lopins de terre, et la collectivité s'est montée. Et tout de suite, on a participé à la collectivité.
Donc, c'est-à-dire que vous avez mis en pratique la collectivisation des terres, des moyens de production, etc.
La plupart des petits paysans qui avaient des lopins de terre, on s'est mis tous à travailler ensemble, et pour le bien de la ville. Et puis, on faisait des échanges avec les villages à côté. Alors, donc, les gros propriétaires sont partis, ont abandonné leurs terres, et elles ont été collectivisées. Toutes les terres du village étaient mises en collectivité.
À partir de quelle année ça s'est mis en place, la collectivisation?
Tout de suite en 1936, quand il y a eu le coup militaire, le 19 juillet, eh bien, il y a eu le départ des gros propriétaires, et les gens étaient déjà organisés. Il y avait une coopérative agricole, et la coopérative agricole est devenue donc la collectivité locale. Et par conséquent, à partir de là, il y a eu une production d'olives, d'amandes, parce que c'est un coin qui est très réputé, très riche. Et alors, il y a toujours des images qui me sont restées de l'époque. L'église, par exemple, bon, elle a été libérée. L'église est devenue un lieu de dépôt de matériel, tout ce qui était engrais, fourrage et tout ça. C'était le dépôt de communal, quoi.
Et le curé était parti?
Ah ben oui, il est parti, et on a découvert dans la sacristie son livre de messe, mais c'est un étui de revolver. Il y avait la forme du revolver dedans. Alors on le voyait toujours se promener paisiblement dans la campagne, mais en fait, il avait toujours son revolver sur lui.
Et votre père, il était à la CNT?
Ah oui, oui. Mon père, bon, ben c'est un homme qui était non violent. Moi, j'ai jamais vu d'arme à feu à la maison. Hein. Mon père, il était à la CNT.
Et moi, ouais, bien sûr, j'ai pris la suite. Quoi. Alors, par conséquent, c'est un révolutionnaire, mais pacifiste. La guerre sans la révolution, c'était pas le but des révolutionnaires. Hein. Bon, la guerre nous était imposée, mais il fallait aller vers la révolution, avant tout. Ce qui nous a été imposé, c'est une contre-révolution. Les communistes, par exemple, qui avaient l'appui de la Russie soviétique, eux, il fallait gagner la guerre. Un manque de chance, ça n'a pas été possible. Hein, parce qu'il y a eu l'appui des puissances fascistes de l'époque. Hitler et Mussolini se sont mis à la disposition de Franco. Et c'est là, à partir de là, il y a eu cette impossibilité d'aller en avant vers la révolution.
El domingo 26 de abril de 1937 era como todos los domingos, día de mercado en Guernica. A las 5 de la tarde, de las cuatro colinas que forman el horizonte de Guernica.
Le dimanche 26 avril 1937, c'était comme tous les dimanches, jour de marché à Guernica. À 5 heures de l'après-midi, des quatre collines qui forment l'horizon de Guernica.
La radio franquiste de Salamanque déclare. L'Espagne n'est pas dans les édifices ni dans les villes. Elle se trouve dans les idées et dans le génie de Franco. Nous sommes en guerre. En avant. Et jusque par-dessus le mort.
Franco encarga a los alemanes de la Legión Cóndor que bombardean sistemáticamente la población civil.
Franco demande aux Allemands de la Légion Condor qu'ils bombardent systématiquement la population civile.
Por primera vez en la historia del mundo podrá proceder a una nueva experiencia. La desmoralización del enemigo por los bombardeos aéreos sistemáticos de la población civil.
Pour la première fois au monde, il va être pratiqué une nouvelle expérience. La démoralisation de l'ennemi par le bombardement systématique des populations civiles.
La Légion Condor expérimente une nouvelle méthode. Dite du tapis de bombe.
Dimanche 26 avril 1937, c'était un dimanche comme les autres. Jour de marché à Guernica.
En 36, il y avait 2 millions d'adhérents à la CNT en Espagne. En 36.
C'était le syndicat majoritaire
ou pas ? Oui, oui. Et après, bon, ben, ça a continué. Dès la fin de la guerre, la CNT s'est réorganisée en Espagne. Il y a eu, à Barcelone, il y avait 60 000 adhérents clandestins.
Et parallèlement, donc, il y a la CNT qui s'exile aussi en France.
La CNT en France, elle s'est organisée déjà dans les camps. Il y a eu des gens qui se sont mis en contact. Bon. Et à partir du moment où ils sont sortis des camps, l'organisation s'est remise à fonctionner parce que on voyait que c'était impossible de retourner en Espagne. Il fallait continuer à vivre suivant les principes qu'on s'était donnés dans les congrès de 1936, par exemple, le congrès de Saragosse. Et à partir de là, l'organisation s'est mise à fonctionner. Il y avait donc à Paris, il y avait un comité régional sur Paris. Le comité intercontinental était à Toulouse. Il y avait une activité d'organisation sur le plan mondial. Il y en avait au Mexique, au Venezuela, en Belgique, et partout dans le monde. Avec l'esprit de conserver la base essentielle de l'organisation anarcho-syndicaliste. Voilà.
Alors, qui se réunissait ici dans les années 70 alors ?
On allait voir à l'époque le nombre de. Tous les samedis, c'était comme ça ici. Il y avait du monde partout, dans les salles à côté. Là, ici, on ne pouvait pas bouger. Hein. Il y avait 600 adhérents sur Paris seulement. Après, il y avait donc des fédérations locales à Melun, Nancy aussi, oui.
Villemonde.
À Fontainebleau, à Sartrouville, Orléans. C'est bien connu que les premiers chars qui sont arrivés à Paris, c'était des Espagnols qui étaient dans la deuxième DB. Le 24 août à Paris, les Espagnols y sont arrivés les premiers.
La Nueve, c'est ça. Nueve,
exactement.
26 août 1944, le lendemain de la libération de Paris, le général de Gaulle descend les Champs-Élysées. Autour du général de Gaulle, des membres du Conseil national de la Résistance, des officiels, la foule, la liesse. Autour encore les véhicules de la 2e division blindée du général Leclerc. Regardez bien, ces véhicules, chargés de la sécurité du général, chacun porte un nom espagnol. Ici, juste à gauche du général, le Don Quichotte. À droite, le Madrid. Leur place en tête de ce cortège historique ne doit rien au hasard. Deux jours plus tôt, au soir du 24 août, le général Leclerc et sa 2e DB sont stoppés à quelques kilomètres de Paris. Le temps presse. Paris s'est soulevé. Il faut entrer coûte que coûte dans la capitale. Leclerc lance en avant-garde sa 9e compagnie, la Nueve. Quelques heures plus tard, les Aftrac, Guadalajara, le Brunete, l'Ebro, le Teruel débouchent sur la place de l'Hôtel de Ville. À leur tête, des républicains espagnols. Ils s'appellent Amado Granel, Fermín Pujol, Ramón Gualda et bien d'autres encore. Pourquoi l'histoire n'a-t-elle pas voulu apprendre leur nom ?
Los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber, el bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alta la bandera revolucionaria, que el triunfo sin cesar no lleva en pos. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alta la bandera revolucionaria, que el triunfo sin cesar no lleva en pos. Alta la bandera revolucionaria, que el triunfo sin cesar no lleva en pos.
Nous avons été vaincus, mais nous avions les plus belles chansons. C'est une phrase qui est attribuée à un de ceux qui ont franchi les Pyrénées, s'est retrouvé en 1939 dans les camps. Et on peut parler vraiment de camps que la France avait réservé à ces vaillants espagnols. Et aujourd'hui, on est au 33 rue des Vignoles, à Paris, dans le 20e, où le local de la CNT, la Confédération Nationale du Travail, est menacé, à défaut de réaliser des travaux d'entretien et de rénovation qui vont coûter très cher, menacés ben de fermeture. C'est en négociation avec la ville de Paris. Et voilà pourquoi, avec Antoine Chao, nous nous trouvons là avec cette mémoire. Alors, on évoque, on ne peut qu'évoquer avec les survivants, comme ils s'appellent eux-mêmes, cette époque héroïque, terrible, tragique que fut cette guerre d'Espagne. Encore une fois, le syndicat, la CNT, aujourd'hui est actif. Non, il n'y a pas que ça dans l'activité de ce syndicat, mais il y a ça, entre autres, la preuve.
Alors ici, on est dans la salle, voilà, de réunion, c'est ça, du 33.
C'est la salle de réunion, c'est la salle où on fait des réunions publiques, des débats autour de lutte sociale, mais c'est aussi un lieu convivial. Convivial et festif, pas simplement un lieu de lutte dépersonnalisé. Quoi. C'est pour ça qu'on y est attaché.
Alors, est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Raphaël, je suis militant de Postier et j'ai adhéré en 86, à l'époque où j'avais quitté la CGT. Je le croyais, je le crois toujours, on voulait un syndicalisme proche des gens. Enfin, moi, c'est ce que je souhaitais. Je voyais des caricatures, des permanents, beaucoup plus nombreux, bien sûr. Mais je préférais, dans un petit syndicat, à l'aise dans mes baskets, mais dans lequel on fonctionnait de manière collective. C'est-à-dire, il y avait des postiers, mais moi, j'ai milité avec des camarades d'autres secteurs, avec des métallurgistes, avec des gens du nettoyage, du commerce. Et on était interprofessionnels, alors que dans les grandes organisations, t'étais très cloisonné, chacun dans son secteur. Et ça, ça me semble contraire à l'esprit de classe. Je suis attaché à ça. Je viens de l'Aisne, hein, l'Aisne. Mes parents étaient dans une cité ouvrière.
Et historiquement, c'est quoi pour toi la CNT alors ?
La référence, on s'appelle CNT par rapport à la référence espagnole, donc la révolution de 1936 en Espagne, une expérience unique au niveau mondial, puisque c'est quand même la seule période où des gens vont en même temps mener une lutte contre le franquisme, puis contre le stalinisme, tout en réorganisant l'économie et en supprimant, ce qui ne s'est jamais passé nulle part ailleurs, la monnaie pendant 18 mois. Donc c'est une expérience unique. Mais c'est pas que ça pour moi, la CNT. C'est aussi un courant qui a ses racines dans le mouvement ouvrier français. Pour moi, c'est la référence à la CGT d'avant 1914, celle qui refuse la guerre, enfin la minorité qui refuse la guerre avec Monat. C'est la CGT-SR qui se crée en 1926, après l'assassinat de deux militants suite à un meeting à la mutualité. C'est donc un courant aussi français. C'est l'osmose entre les deux. Les camarades qui viennent d'Espagne, la référence espagnole, mais en même temps la référence à un courant minoritaire du syndicalisme français qui a toujours existé, qui refuse l'Union sacrée, qui refuse le stalinisme. Voilà, c'est toute une histoire d'un courant qui se bat pour un syndicalisme indépendant de l'État, des partis et du pouvoir. Voilà, ça existait aussi en France. On l'oublie un peu.
Une nuit a démarré la plus grande geste révolutionnaire dont se rappellera l'histoire. Depuis plusieurs nuits, l'organisation confédérale et anarchiste veillait l'arme à la main, préparée et décidée à répondre à toute tentative de putsch fasciste. Personne n'a oublié la façon héroïque dont se sont battus les membres de la FAI et de la CNT. L'ordre révolutionnaire a été assuré dès les premiers instants par les six lettres mille fois glorieuses de la lutte ouvrière de la péninsule, CNT-FAI. Sont apparues ces inscriptions sur des voitures qui, sans plus aucun risque, traversèrent le joyeux convoi les avenues de Barcelone. CNT-FAI, Confédération nationale du travail, Fédération anarchiste ibérique.
Me llamo Felipe Laborda Cerdà, nacido en Barcelona. Je m'appelle Philippe Laborda Cerdà. Je suis né à Barcelone, l'année 1922. J'ai adhéré à la CNT espagnole au mois de mai 1936. J'avais pas encore 14 ans. Il me manquait 2 mois pour faire les 14 ans. Mais naturellement, quand j'ai travaillé déjà depuis 2 ou 3 ans dans un atelier de maroquinerie, alors on m'a accepté au syndicat sans attendre que j'ai les 14 ans. Bon. Alors, quand il y a eu le mouvement, ça a été au mois de juillet, l'année 36, moi j'étais à la CNT depuis le mois de mai, 2 mois avant. Moi, naturellement, j'appartenais aussi aux jeunesses libertaires du quartier où j'habitais, à Barcelone. Le barrio chino, le quartier chinois, c'était une partie de Barcelone. Inclus et les Ramblas. Le fait des quartiers chinois, il n'y avait pas de chinois. C'était un endroit où la pègre est incorporée. Il y a eu la création, l'année 36, de la Fédération ibérique de la jeunesse libertaire. Qu'avant, c'était les gens libertaires dans les syndicats. Ils coopéraient dans les syndicats en tant que militants. Mais après, ça a été la Fédération ibérique à part. Bon. Le mouvement, ça a été le 19 juillet 1936. C'est un dimanche. Ce jour-là, une partie de jeunesse libertaire, on devait faire un déplacement à 24 km de Barcelone. C'était à Castelldefels. Mais c'était une sortie entre nous, entre camarades. C'est-à-dire, les mots camarades, on ne les employait pas. On disait compañeros. Les mots camarades, c'est plutôt des tendances marxistes. Mais nous, c'était des compañeros. Maintenant, on n'est pas des camarades, on est des compañeros. Bon, alors, il y a une différence. Alors, à 5 heures du matin, on était dans la rue. on attendait les autres pour partir à pied. Hein. On devait faire 24 km à pied. Et on l'avait fait déjà deux fois avant. C'était une avancée, le fait d'aller à la plage, de se baigner tout nu, le naturisme, la camaraderie. Et bon, il y a eu le mouvement et le peuple barcelonais, l'ensemble, et les organisations de la CNT et de la FAI, Fédération anarchiste ibérique, ont fait face au mouvement fasciste. Ça a duré pendant deux jours. La fraction a été écrasée. Et tout de suite après, c'est les divisions, on appelait des columnas, en commençant par la colonne de Durruti, hein, qui sont partis au front d'Aragon pour faire la vraie révolution, la transformation de la société. Je sais qu'à Barcelone, les syndicats de transport avaient pris possession des tramways. Une semaine après, les tramways ils circulaient à Barcelone. Mais rouge et noir. Ce n'était les autobus, pareil. Les métros, pareil. C'est formidable. Même les cinémas, les théâtres étaient au pouvoir de la CNT. Et pour dire, on avait fait beaucoup de films de l'époque, qui encore, ça existe, on peut les trouver. Les salaires étaient pareils. C'est pas qu'un qui gagnait plus que l'autre. Il n'y avait pas ces différences de salaire. Mais en Espagne, il y avait les organismes, à part la CNT, il y avait la UGT qui était minime. C'était des tendances socialistes. Mais par solidarité, on les faisait rentrer dans les comités CNT-UGT pour montrer que c'était l'antifascisme. Là-bas, on ne parlait pas des communistes. Les partis communistes, c'était minime. Ça aussi, il faut tenir compte. Pendant la guerre, ils étaient arrivés à plus de 500 000 adhérents. C'était des ouvriers, la grande plupart, mais ce n'étaient pas des militants, ce pas des gens qui avaient lutté avant.
Ils n'ont pas peur de la mort, mais ils ont peur de mourir. Car ce sont des civils, soldats du peuple, soldats de la vie et non de la mort.
J'avais un frère qui appartenait au parti du PUM, Unification Marxiste. Ce n'était pas communiste. Qui avait participé avec les compagnons de la CNT pour faire face aux réactionnaires, à la réaction, les événements du mois de mai 37. Mm-hmm. Mon frère a été obligé de se cacher à Barcelone. Le déclenchement de ça, ça a été qu'il y avait un comité de contrôle ouvrier dans la centrale téléphonique de Barcelone. C'est-à-dire que les compagnons de la CNT qui travaillaient là-bas étaient au courant de toutes les conversations, soit avec le gouvernement de Madrid, la Généralité de Catalogne, etc. Alors, la fraction républicaine modérée, hein, les socialistes modérés, malgré qu'une grande partie d'entre eux aussi ont participé dans les collectivisations. C'était l'ensemble. C'était minoritaire, mais ça a été incorporé. Et avec l'appui, aussi la participation du Parti communiste, et le gouvernement de la Catalogne, avec ses tendances, avait décidé de s'emparer de la Telefónica. Alors, ils ont envoyé la police de la Généralité, de la part du gouvernement de la Catalogne et de la part, soi-disant, de l'antifascisme espagnol. Mais ce n'était pas vrai. Ils ont voulu s'emparer de ça, liquider le comité de contrôle ouvrier, c'est-à-dire la CNT, et être eux en possession de toutes les nouvelles. Mais ça, ça a été l'éclatement de la population de Barcelone. Et en rien du tout, les barricades ont été partout, dans tous les quartiers. Et naturellement, ça coûtait plus de 500 morts hein, à la CNT à l'époque. L'année 37, ça. Après, le gouvernement central et de Catalogne, ils ont mis de l'ordre à leur façon. Il y a des collectivités qui ont disparu. Une partie de l'industrie qui avait été aussi socialisée a disparu. Ça a été, comme on dirait, une trahison à la Révolution. Et Staline, à l'époque, il envoyait des émissaires un peu partout pour étendre les idées anticapitalistes. On appelait la Tchéka. Mon frère, on l'appelait le commandant de la Borda, il a été blessé. Aragon, ça a été appris. Hein. Et on l'a mis à l'arrière, dans une sorte d'hôpital qu'il avait en arrière, quelques kilomètres. Malheureusement, les responsables étaient des tendances communistes. Et quand il a vu le nom de mon frère adhérent au POUM, il est resté plus de 2 jours blessé, sans être soigné, comme un chien. Il a été malade. Il est décédé l'année 38, il avait 25 ans. Ça, c'est pour dire.
L'évocation par Felipe Laborda de ce qui fut cet épisode terrible à Barcelone, de cette guerre d'Espagne et de la guerre civile dans la guerre civile. Voilà ce qu'on peut entendre au 33 rue des Vignoles à Paris, siège du syndicat CNT. Je l'ai dit, le local est menacé. Les syndicalistes et les amis de la CNT se battent pour le maintien de ce local qui doit être restauré. Il y a des pourparlers avec la ville de Paris. Là, on est allé très loin dans la mémoire, mais il y a aussi de la jeunesse, évidemment, dans cet endroit-là. La preuve, Nicolas Norito. Nico.
Nicolas, je suis enseignant, j'ai 36 ans et je suis militant à la CNT depuis 1998.
Qu'est-ce qui se passe ici dans ces locaux? Alors pourquoi il faut les défendre? Pourquoi il faut les restaurer? Pourquoi il faut que la CNT reste ici?
C'est une immense valeur symbolique et affective, évidemment, puisque ce sont les locaux qui ont été loués au départ par les Espagnols quand ils ont dû quitter la rue Sainte-Marthe. Depuis, c'est bien au-delà de la CNT, un local historique du mouvement libertaire, puisque dans les années 70, tu avais l'organisation révolutionnaire anarchiste qui avait son local ici, l'UTCL, l'Union des travailleurs communistes libertaires. Tu avais vraiment des organisations politiques, des syndicats, des petits collectifs d'insoumis. C'est un lieu important de l'histoire du mouvement libertaire parisien, francilien et français. Comme tu peux le constater, les locaux sont dans un piteux état. On a un accord avec la mairie, un bail emphytéotique, donc un bail très longue durée, en échange de la restauration des locaux. Mais restaurer des locaux dans Paris aujourd'hui en les mettant aux normes, ça coûte plusieurs millions d'euros. Voilà.
Alors l'idée c'est quoi? C'est de lancer une souscription, c'est ça, pour recueillir de l'argent?
C'est très important parce que c'est joli, c'est rouge et noir, c'est une impasse, c'est pittoresque. Mais ça pourrait être tellement mieux si on avait par exemple à l'étage des bureaux, au fond, une sorte d'auberge jeunesse pour accueillir des camarades qui viendraient du Québec, qui viendraient d'Argentine, qui viendraient d'Allemagne. On pourrait constituer une véritable bourse du travail encore plus ouverte sur le quartier. Donc un des points importants, c'est de savoir si on sera capable de résister en tant que petite organisation syndicale et politique à la gentrification du quartier. Ensuite, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'activité, puisqu'on organise beaucoup de conférences, beaucoup de projections, beaucoup de concerts. C'est un lieu donc de vie et de convivialité. Sachant que cette convivialité, cette solidarité, elle permet aussi de faire fonctionner la CNT ou de soutenir des luttes zapatistes en leur envoyant quelques sous pour poursuivre leurs activités. La lutte de collectifs palestiniens qui se battent pour la paix et la justice au Proche-Orient. Donc voilà, ce soir on organise un concert avec un groupe punk qui s'appelle Eyoka, qui est un groupe de rap. Donc c'est un peu à l'image de la CNT, la France jeune, du rap, du punk, faire vivre le quartier et conserver ce côté révolutionnaire, populaire, d'une certaine façon un peu romantique, qui est celui du Paris des communards, du Paris de 68, du Paris de 36. Paris a toujours été une ville avec un caractère ouvrier marqué, une ville de révolution. Est-ce que ça va définitivement se perdre? Est-ce que quand toutes les organisations politiques, syndicales, tous les petits collectifs auront été virés du 18e, 19e et 20e, il y aura encore une place pour un Paris révolutionnaire? C'est ça la question qui est posée en substance.
Alors,
Merci à tous. 33 de la rue des Vignoles, un reportage d'Antoine Chao accompagné par Merlin. Remerciements pour leur témoignage à Manuel Rodriguez, Valentin Montané, Felipe Laborda Cerda, et pour leur aide à Véronique Olivares Salou, Aimable Marsaillan, Nicolas Norito qu'on vient d'entendre, et l'historien Alain Doboff. Toutes les informations concernant ce lieu seront communiquées sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, ou bien sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. Et puis c'est une occasion peut-être pour vous de revoir un film magnifique, le film magnifique de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, avec les voix de Suzanne Flon, de Germaine Montero, et puisqu'on célèbre à juste titre Jean Villard cette année, la voix de Jean Villard tout au long de ce chef-d'œuvre qu'est Mourir à Madrid. À la technique aujourd'hui, de Farguerid et Jean-Philippe Jeanne, c'est Dimitri Gronoff et Chloé Sanchez qui ont réalisé cette émission, assistée de Pierre-Yves Bulteau, et Solène Cordier, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Ça coûte cher, les enfants!
Les habits, les vacances, la rentrée!
Heureusement, à la Matmut, la nouvelle assurance scolaire, c'est 6 mois offerts et pour une assurance trop buzz!
Alors là, bravo, la Matmut! 6 mois offerts pour l'assurance scolaire de mon loulou, chapeau!
Offre valable du 2 juillet au 2 octobre prochain, réservée aux sociétaires selon conditions en agence ou sur matmut.fr.
À demain, 15h, pour là-bas, si j'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
Ils ont parlé d'une seule voix. François Hollande et Mariano Rajoy ont tenu une conférence de presse à Madrid cet après-midi. Le chef de l'État et le Premier ministre espagnol ont réclamé une réponse structurelle à la crise dans la zone euro. Tous deux se disent aussi attachés à la monnaie unique. François Hollande a dans la foulée annoncé un sommet franco-espagnol le 10 octobre prochain à Paris. En Espagne, la crise de la dette commence à se propager dans les régions. Après la Catalogne mardi, c'est au tour de la région de Valence de demander l'aide financière de l'État central espagnol. Elle réclame 4,5 milliards d'euros. Pour François Hollande, l'Espagne est souveraine pour demander un sauvetage financier à l'Europe. François Hollande qui s'est aussi exprimé sur le cas de Marseille. L'armée n'a pas sa place pour contrôler les quartiers, a dit le chef de l'État. Des propos qui viennent en écho à ceux tenus par Manuel Valls et Jean-Yves Le Drian un peu plus tôt. Les ministres de l'Intérieur et de la Défense ont opposé une fin de non-recevoir à Samia Ghali. La sénatrice maire PS des 15e et 16e arrondissements de la ville a réclamé aujourd'hui l'aide de l'armée au lendemain d'un nouveau règlement de compte. Marseille n'a pas besoin d'un appel à la guerre civile, a aussitôt répondu de son côté Jean-Claude Gaudin. Le maire de Marseille trouve ses propos irresponsables. Il montre une approche irréaliste de cette problématique et des réalités sociologiques des cités. Pour éteindre la polémique qui enfle sur le sujet, Jean-Marc Ayrault a donc lui annoncé à la mi-journée la tenue d'un comité interministériel jeudi prochain à Matignon, donc pour tenter de trouver des solutions à la situation à Marseille. Le gouvernement est déterminé à ne pas laisser les choses dériver, a déclaré le Premier ministre. Depuis le début de l'année, 14 personnes ont été tués, victimes donc de règlements de compte à Marseille sur fond de trafic de drogue. Pour avoir bloqué le périphérique parisien en juin dernier, un automobiliste de 28 ans qui faisait partie d'un cortège de mariage a été condamné aujourd'hui à 1400 euros d'amende et 4 mois de suspension de permis. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu son jugement aujourd'hui. Pas encore de médaille française, mais déjà une pluie de records battue pour la première journée des Jeux paralympiques de Londres. Ainsi, la Britannique Sarah Storey, ancienne nageuse, convertie au cyclisme, dont la main gauche ne fonctionne pas normalement, a battu le record du monde de poursuite individuelle à 3 km dans sa catégorie. Elle a parcouru la distance en 3 minutes 32. En natation, record du monde battu également sur le 200 mètres 4 nages, 2 minutes 28 secondes pour la néo-zélandaise Pasco. À qui donner les 7 titres remportés par Armstrong dans le Tour de France? À personne, c'est l'avis aujourd'hui de la Fédération française de cyclisme. Il faut laisser vierge le palmarès entre 1999 et 2005, selon la Fédé. Ça éviterait ainsi toute polémique quant à la crédibilité d'éventuels vainqueurs. Certains d'entre eux arrivés deuxièmes sont eux aussi impliqués dans d'autres affaires de dopage. Vendredi dernier, l'agence antidopage américaine a radié à vie Lance Armstrong et annulé aussi l'ensemble de ses titres après le refus du coureur de contester les accusations de dopage portées contre lui. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Viva la femme!
Les femmes.
Viva.
Toute une histoire.
La femme.
À Moscou, 2 ans de goulag pour les Pussy Riot. En Tunisie, les femmes dites complémentaires de l'homme. Aux États-Unis, un sénateur républicain qui distingue les vrais et les faux viols. Décidément, les femmes sont plus que jamais au cœur de l'actualité. Pour en parler, je vous donne rendez-vous désormais le vendredi matin de 9h à 10h dans Les Femmes, toute une histoire, le magazine de l'actualité et de l'histoire des femmes.
Une émission de Stéphanie Duncan, ce vendredi à partir de 9h.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia, merci beaucoup. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la Saint-Fiacre, ça n'est pas le patron des chauffeurs de taxi, non, c'est celui des jardiniers malgré son nom. Et les jardins, il y en a beaucoup, il y a de la musique dedans, ils ont inspiré pas mal de musiciens comme Percy Grainger par exemple, né près de Melbourne en Australie, et devenu un grand voyageur, pianiste, chef d'orchestre, sportif qui se déplaçait volontiers à pied entre les concerts, en courant ou en marchant rapidement, un regard un peu exalté sur la photo, des cheveux flamboyants, il a l'air d'avoir un tigre sous le capot, ce personnage. D'ailleurs, il jouait de cette manière-là, extrêmement virtuose, et il a donné la preuve dans pas mal de pièces de ses capacités. Voici un très joyeux moment proche de la nature, ça s'appelle « Country Gardens ». Malgré cette fin triomphale, c'était bien Country Gardens, les jardins campagnards de Percy Grainger, interprétés par Martin Jones. Alors les jardins sont à l'honneur, pas seulement parce que c'est la Saint-Fiacre, mais il y a des initiatives. Par exemple, en Vendée, vous pouvez aller visiter le domaine de William Christie, le fameux chef d'orchestre né en Amérique mais amoureux de la France, qui a installé là de la musique dans la verdure. Alors on peut entrer dans cette belle maison, dans ce bel espace, et par exemple demain et puis samedi, c'est à Tiré que ça se passe, et à 20h vous pourrez dans les jardins de Tiré admirer certainement une œuvre de Georg Friedrich Händel, Assis et Galatée, et il y aura le maître lui-même à la direction, William Christie, avec de très beaux solistes et de jeunes artistes à découvrir. Et le 30 c'est encore ce soir, le 31 c'est demain, le 1er septembre aussi, vous pourrez aussi entrer dans ces jardins de Tiré pour des promenades musicales, accès au jardin à partir de 17h30, et là des jeunes musiciens musiciens de vraiment de tous horizons, enfin des bons surtout, les chanteurs du Jardin des Voix. Ce sont les découvertes de William Christie qui auditionne beaucoup de jeunes musiciens, des musiciens de la Juilliard School de New York aussi, et puis des arts florissants. Ben, ils vont pas improviser quand même, se préparer, mais enfin donner des concerts qui paraissent improvisés, et ils sont là dans les buissons. Le public pourra pique-niquer, pourra assister dans l'ordre qu'il souhaite au concert donné dans 4 sites pittoresques du domaine. C'est à Tirée, en Vendée, vous avez bien de la chance. Et bah, les Parisiens, ou ceux de la région parisienne, peuvent aller, eux, à Sceaux, à l'orangerie du parc de Sceaux. Là, c'est un endroit fabuleux aussi. Il y a de la nature, il y a des pièces d'eau, poissonneuses même, d'ailleurs, je peux le dire. Et puis de la musique. Donc l'orangerie, le festival de l'orangerie, continue gaillardement, on en est très content, et vous pourrez entendre par exemple Philippe Graffin avec Claire Désert dans un beau programme. C'est demain donc à 20h, Beethoven, Schumann, Claude Debussy, Maurice Ravel. Voici un extrait d'une sonate qui va être donnée demain, et c'est la deuxième sonate de Robert Schumann, et c'est écrit bewegt, c'est-à-dire animé.